Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est plus actuelle que jamais. Les événements récents nous montrent bien que la prophétie annonçant que Jérusalem serait une pierre pesante pour toutes les nations nous met encore devant cette évidence. Et les autres prophéties bibliques concernant les temps actuels et les temps de la fin se mettent également en œuvre avec une régularité impressionnante. Tout ceci devrait amener tout homme à réfléchir au message de la parole de Dieu, et en particulier à l'appel solennel qui s'adresse à chacun « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et cet autre passage biblique, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». En même temps, quelle manifestation de miséricorde et de grâce, puisque le Seigneur veut toujours que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme nous en avons encore une démonstration dans le témoignage suivant, celui de Taïzir, ce jeune Palestinien et sa haine des Juifs. Beaucoup de sang a coulé. Je tuais des Juifs avec passion. J'entraînais des adolescents à l'usage des armes dans des camps de réfugiés. Pour moi, c'était la guerre. J'étais prêt à mourir pour cette cause. Taïzir Saada est né à Gaza en 1951. Ses parents quittent Jaffa avant la guerre de 1948 pour trouver refuge dans cette ville toute proche, une première étape avant de poursuivre leur exode vers l'Arabie Saoudite, puis plus tard le Qatar. C'est surtout en Arabie Saoudite que le jeune Taïzir apprendra à haïr le peuple juif. Considéré par les Saoudiens comme des immigrants palestiniens venus profiter de l'hospitalité de leur pays, la famille Saada et d'autres réfugiés sont souvent accusés d'avoir vendu leur propre pays aux Juifs. Alors, de jour en jour, la haine du Juif grandit dans le cœur du jeune homme. Et il n'a qu'une envie, s'engager aux côtés de Yasser Arafat, le fondateur du Fatah, le mouvement de libération de la Palestine. Lorsqu'il en parle à son père, il reçoit pourtant un refus net, bien que celui-ci soutienne financièrement le mouvement d'Arafat. En 1967, après la guerre des six jours, le sentiment de haine et de révolte chez le jeune Taïzir arrive à son paroxysme. Profondément humilié devant la défaite des troupes arabes, il s'enfuit de la maison et part avec deux camarades au quartier général du Fatah à Damas. Dans un centre de formation en Jordanie, il reçoit un entraînement qui fera de lui un combattant fanatisé sans état d'âme. Pendant près de 3 ans, il participe à toutes sortes d'actions à l'intérieur d'Israël et il devient lui-même formateur. En 1970, les parents de Taïzir réussissent à le retrouver et lui demandent de rentrer pour une visite avec la promesse qu'il pourra ensuite retourner en Jordanie. Cependant, dès qu'il arrive au Qatar, on lui confisque son passeport et l'oblige à reprendre ses études. Contraint d'accepter, il reporta sa haine sur tout son entourage. Devenu très violent, il tente même de tuer un de ses professeurs. Renvoyé de l'établissement, il est mis devant un choix, aller poursuivre ses études en Égypte ou en Angleterre. Il refuse les deux et arrive à persuader son père de l'envoyer aux États-Unis. Ainsi, en février 1974, Taïzir, alors âgé de 23 ans, part pour l'Amérique et s'établit à Kansas City. Il se marie rapidement, uniquement dans le but de pouvoir rester. Une fois la citoyenneté américaine obtenue, il pense divorcer. Mais même s'il vit une vie dissolue, trompant souvent sa femme, le couple reste uni à sa propre grande surprise et à celle de son entourage. Après avoir travaillé dans des restaurants et hôtels à différents endroits pendant 19 ans, il signe un contrat pour racheter le restaurant où il avait débuté sa carrière à Kansas City. À la recherche d'un autre bâtiment plus accueillant, il demande conseil à Charlie Sharp, un homme d'affaires, ami proche depuis longtemps. Un jour, en février 1991, cet ami l'appelle pour lui dire qu'il a trouvé un très beau bâtiment. Quand il le décrit, Taïzir se souvient qu'il a déjà visité cette bâtisse lui-même, mais qu'il l'avait rejetée parce qu'elle avait auparavant servi de salon funéraire. Et en tant que musulman, il ne pouvait pas accepter un tel site, par crainte des démons qui pouvaient l'habiter. Lors de sa visite, quelques jours plus tôt, il avait effectivement ressenti une grande frayeur. C'est l'occasion pour Charlie, qui est un chrétien authentique, de lui témoigner de sa foi, et il reproche ouvertement à Taïzir de n'avoir aucune crainte de Dieu. Il lui parle de la relation personnelle qu'un chrétien peut avoir avec Dieu. Et ce sont finalement ces mots que Taïzir retient et qu'il ne peut plus oublier. Comment faire pour avoir une relation personnelle avec Dieu ? TAS, comme on l'appelle en Amérique, ne comprend rien. mais il veut en savoir davantage. Et quelque temps plus tard, il va retrouver son ami pour qu'il lui explique ce que cela veut dire. Charlie connaît bien Taizir et la haine des Juifs qu'il habite. Et d'emblée, il lui dit une phrase qui va le faire bondir. « Tass, si tu veux vraiment connaître la paix qui habite mon cœur, il faut que tu aimes les Juifs. » C'était la dernière chose que le Palestinien pouvait accepter. « Comment mon ami peut-il même penser une telle chose, se dit-il, aimer les Juifs ? Il connaît la haine qui habite mon cœur. » Son ami lui demande simplement de se calmer. Puis il lui pose une autre question déconcertante. « Tass, que sais-tu à propos de Yeshua, le Messie ? Il est un prophète en qui tous les musulmans croient. » Charlie lui explique que Yeshua est bien plus qu'un prophète, qu'il est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Cette affirmation provoque une autre réaction violente de son interlocuteur. « Ça suffit !» s'écrie-t-il, rempli de colère. « Tu crois que je suis fou ? D'abord, tu me dis que je ne crains pas Dieu, puis tu me dis que je dois aimer les Juifs, et maintenant tu me dis que Yeshua est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais c'est un blasphème !» Il avait envie de partir, mais encore une fois, son ami lui dit de s'asseoir et de prendre son temps. Il ouvre sa Bible et commence à lire le début de l'évangile de Jean. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il se passe alors quelque chose de stupéfiant. En entendant le mot « parole », Taizir se met à trembler. Mais c'est exactement ce que dit le Coran à propos de Jésus. Le Messie, le fils de Marie, est le messager de la parole de Dieu. Sans comprendre comment, Taizir se retrouve par terre à genoux. Il voit une lumière et il entend une voix. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, Taizir ne sait pas que c'est une parole de l'Évangile. Il est persuadé que c'est Jésus qui lui parle personnellement. Et en un instant, il comprend l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Dans un élan de repentance et de foi, il demande pardon pour tous ses péchés. « Jésus, s'écrie-t-il, sois mon Sauveur et Seigneur !» Et à l'instant, il a la certitude que quelque chose de grand s'est passé. C'est comme si un immense fardeau était tombé de ses épaules. C'est le 14 mars 1993. Taizir Saada a 42 ans. Et à partir de ce jour, sa vie ne sera plus jamais la même. Rentré à la maison, il a hâte de tout raconter à son épouse Karen. Il lui demande pardon pour toutes ses infidélités, pour tout le mal qu'il lui a causé. Et pour la première fois, il peut sincèrement lui dire qu'il l'aime vraiment. Son épouse n'est pas naïve. Elle connaît bien la vie dissolue de son mari. Et il lui faut des preuves avant de croire. Mais le temps passant, elle est bien obligée de reconnaître sa transformation totale et elle se tourne alors elle-même vers Dieu, de même que sa fille de 15 ans, touchée par les nouvelles relations qu'elle constate entre ses parents. Mais c'est lorsque Taizir partage son expérience avec son fils, Ben Ali, 17 ans, qu'il a la plus grande surprise. « Oh papa !» s'exclame son fils. « J'ai accepté le Christ il y a 3 mois et je ne l'ai raconté à personne. » Puis il explique à son père qu'il avait demandé conseil à son pasteur, sachant que son père risquerait de le tuer s'il apprenait sa conversion. Le pasteur lui avait alors conseillé de rentrer à la maison et de montrer tout simplement sans parole à son père combien il l'aimait. Puis ce pasteur avait organisé une réunion spéciale à l'église dans le but de prier pour sa famille. Le lendemain de sa conversion, une autre expérience prouve que Taizir n'est plus le même. Cet homme qui, durant toute sa vie, a été rempli de haine contre les Juifs, se surprend à prier de façon spontanée pour ce peuple. « Ô Dieu, dit-il, bénis ton peuple d'Israël. Seigneur, rassemble-le au pays de la promesse. » Taizir veut bien sûr aussi informer sa famille au Qatar de sa conversion. Il est bien conscient du risque d'une telle annonce lorsqu'il expédie sa lettre, et il n'est pas étonné de la teneur de la longue réponse qu'il reçoit quelque temps plus tard, signée par son père, sa mère, ses 10 frères et sœurs, et dont le message peut se résumer en quelques mots. « Tu es fou. Si tu ne reviens pas à l'islam, nous te tuerons à la première occasion. » Il attend 10 ans avant de retourner au Qatar. Ses parents sont vieux. S'il veut les voir vivants, il ne peut plus tarder. Il a beaucoup réfléchi et prié. Il est prêt. « Je n'ai pas oublié la menace de mort, leur écrit-il. Mais je veux que les choses soient claires entre nous. Si cela doit me coûter la vie, qu'il en soit ainsi. » À son arrivée à l'aéroport de Douar, au Qatar, son frère aîné, armé d'un fusil, accompagné de 2 frères cadets, de sa sœur aînée et du mari de celle-ci, l'attendent. Pour Taizir, c'est clair. Ses deux frères cadets et le mari de sa sœur sont les témoins de la légalité de l'assassinat, comme le Coran le demande. Il sait comment vont se dérouler les événements. Son frère lui posera trois fois la question « Veux-tu revenir à l'islam ?» Si la réponse est non, il sera tué en toute légalité. Alors il prend les devants. Il s'approche de son frère aîné et lui donne un baiser sur sa joue droite. Ce qui, dans leur culture, veut dire « Je suis sous ton autorité. Fais ce que tu veux. » Touché par ce geste de soumission, son frère attire Taïsir dans ses bras et l'embrasse. Il l'invite chez lui. Puis c'est la rencontre si attendue avec ses vieux parents. Durant un long entretien, il raconte à son père tout son cheminement jusqu'à sa conversion, répondant à toutes ses questions. Son père réfléchit, puis il pose sa main sur sa tête et lui dit « Mon fils, je crois qu'Allah t'a appelé à quelque chose de spécial. Je te donne ma bénédiction. » Ému et soulagé, Taïsir reconnaît la main de Dieu dans ce miracle. Il sait aussi que la bénédiction de son père lui garantit désormais la sécurité partout dans sa famille. Personne n'osera le toucher. Depuis sa conversion, Taïsir Saada, secondé par son épouse Karen, a entrepris un travail profond pour rapprocher les Palestiniens et le peuple juif. Un travail de réconciliation et de pardon dans les milieux musulmans, juifs et chrétiens. L'organisation Hope for Ishmael, Espoir pour Ismaël, qu'il dirige, annonce l'évangile dans les milieux arabes et à partir d'une autre organisation, Seeds of Hope, il œuvre pour soulager la misère matérielle. C'est dans son livre « Je combattais avec le Fatah » que Taïsir Saada raconte son cheminement étonnant. Lui, le tueur rempli de haine, formant des jeunes à devenir des terroristes fanatisés, est devenu un disciple du Christ, rempli d'amour et bâtisseur de paix, comme il veut désormais se définir. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, un témoignage de ce que le Seigneur accomplit. Et nous voulons maintenant ouvrir la parole de Dieu, cette parole par laquelle le Seigneur veut faire une œuvre salutaire dans chacune de nos âmes et de nos vies. Te remercions, Seigneur, de ces moments que tu nous donnes. Nous te remercions pour l'œuvre puissante que tu es capable d'accomplir encore dans les cœurs, dans les âmes, pour les changer à ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu es encore un Dieu de puissance, un Dieu de miracles, Seigneur, un Dieu qui veut encore te révéler à ceux qui s'approchent de toi avec sincérité. Merci parce que tu bénis ta parole aussi, par laquelle tu accomplis encore ton œuvre maintenant. Sois glorifié, mon Dieu. Amen. Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, en effet, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, où nous lirons à partir du verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » Et je relis le verset 2 maintenant. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Voilà. Lorsque donc ces femmes marchaient vers le sépulcre pour aller embaumer le corps de Jésus, dans la pénombre du matin, elles savaient que la grande pierre qui fermait l'entrée du tombeau serait un grand obstacle à leur travail. Elles se demandaient « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et vous savez, cette question représente bien la peine de l'univers tout entier. Qui nous roulera la pierre? Sur le chemin du bonheur de l'homme, il y a une grande pierre qui bouche complètement la route, Qui parmi les puissants va enlever la barrière ? La philosophie a essayé, mais a misérablement échoué dans sa tâche. Dans l'ascension vers l'immortalité, la pierre du doute, de l'incertitude, du manque de foi a arrêté tout progrès. Qui pourrait soulever cette masse terrible et amener la vie et l'immortalité à la lumière ? Pour ces femmes, il y avait trois difficultés. D'une part, la pierre en elle-même était très grande. Ensuite, elle était tamponnée du sceau de la loi. Enfin, elle était gardée par les représentants du pouvoir. Et pour l'humanité, de même, il y avait trois grandes difficultés. La première, c'est que la mort était une grande pierre qui ne pouvait être bougée par aucune force humaine. Cette mort, ensuite, était envoyée par Dieu comme une punition aux désobéissances contre la loi. Le sceau rouge du châtiment de Dieu était à l'entrée du sépulcre. Comment un tel sceau pouvait-il être brisé ? Qui pourrait rouler la pierre au loin ? Et nous voyons que la réponse n'a pas été donnée aux sages ni aux rois, mais à ces femmes qui aimaient Jésus. Elles sont venues à la tombe, mais elle était vide, car Jésus était ressuscité. Et voilà la réponse à l'angoisse du monde. Il y a une autre vie. Les corps vivront à nouveau, puisque Jésus est vivant. Car depuis que Jésus est ressuscité, les morts en Christ revivront, et la tombe du croyant n'est plus un endroit de lamentation, mais le passage vers l'immortalité. Au moins une douzaine de multimillionnaires ont laissé de l'argent à leur nom dans l'espoir d'être ramenés à la vie. Ces chercheurs d'immortalité ont prévu de faire congeler leur corps par cryogénie après leur mort, rapporte le Wall Street Journal. Ils ont également placé leur argent dans des fidéicommis de réanimation personnelle qui, croient-ils, les attendront lorsque les scientifiques les réanimeront dans le futur. Même si la réanimation était possible, rechercher la vie éternelle en dehors de celui qui est immortel, c'est poursuivre un rêve irréalisable. L'apôtre Paul affirme que le Seigneur est la seule source d'immortalité. C'est dans 1 Timothée 6, verset 16. Il est éternel dans son caractère et dans ses actions. Pour les êtres humains, toutefois, la mort est universelle, inévitable, et elle mène finalement au jugement, d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et au verset 27. Et tout cela résulte de notre péché. Seule la rédemption par Jésus-Christ peut remédier à la situation, comme nous le rappelle l'Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 15 et au verset 16. Par sa propre résurrection, Jésus a brisé le pouvoir de la mort et montré à l'humanité la voie de l'immortalité, comme nous le dit la deuxième épître de Timothée au chapitre 1er au verset 10. Et notre réaction à la mortalité ne devrait donc pas être de préserver notre corps physique par cryogénie, mais d'être prêt à notre propre mort en recevant le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous parlerons ensemble maintenant de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et pour rendre ce sujet plus intéressant encore, nous écouterons d'abord la prédication de la pierre elle-même, ensuite nous écouterons celle de l'ange depuis sa chair de pierre. Alors en premier, écoutons la prédication de la pierre. Ce n'est pas inhabituel de trouver dans la Bible des pierres appelées à prêcher la parole de Dieu. De grandes pierres ont été roulées et dressées en témoin contre le peuple. Les pierres et les poutres de la muraille ont été appelées à crier contre le péché. Et nous demanderons aujourd'hui à notre pierre d'être un témoin des six grandes vérités desquelles elle est le symbole. Et la première, c'est que cette pierre roulée doit être considérée comme la porte du sépulcre ôté. La maison de la mort était hermétiquement close par une grande pierre. L'ange l'a enlevée et le Seigneur vivant en est sorti. Observez que la porte massive a été enlevée du tombeau, pas seulement ouverte, mais décrochée, jetée de côté, roulée au loin. Et depuis, l'ancienne prison de mort est sans porte. Les saints y passeront, mais ils n'y resteront pas enfermés. Ils reposeront là, comme dans une cave ouverte, mais rien ne les empêchera de venir au moment fixé. Comme Samson, alors qu'il dormait à Gaza, était environné d'ennemis, s'est levé tôt le matin et a pris sur ses épaules les portes de la ville avec les montants et les barres pour l'emmener sur la montagne voisine, en laissant la forteresse philistine ouverte et exposée, Ainsi en est-il de Christ, notre Maître. Après avoir dormi pendant 3 jours et 3 nuits, suivant la parole de Dieu, il se leva dans la grandeur de sa force et enleva les portes de fer du sépulcre en arrachant poteaux et barres de leur place. Et l'enlèvement de la pierre était ainsi le signe extérieur et visible de notre Seigneur arrachant les portes du tombeau, laissant ainsi la vieille forteresse de la mort et de l'enfer prise, détruite, dépouillée de toute sa puissance. Amen. Ensuite, on peut aussi considérer cette porte comme un trophée, comme un monument élevé. Comme les hommes d'autrefois élevaient des pierres en mémorial ou des colonnes pour rappeler de grands exploits ou actes de courage, de même cette pierre se dresse aux yeux de notre foi comme le symbole de la victoire éternelle de Christ sur les puissances du péché et de la mort. Ah, il pensait qu'il l'avait vaincu. Il souriait cruellement en voyant son corps enveloppé dans le linceul et transporté dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathée. Mais leur joie était de courte durée, car au moment préparé d'avance, celui qui ne pouvait pas voir la corruption est ressuscité et s'est échappé de leur pouvoir. Son talon avait été blessé par le serpent ancien, mais au matin de la résurrection, il a écrasé la tête du dragon. Bien-aimés, en Christ, lorsque nous regardons à cette pierre, elle nous apparaît comme le monument de la victoire de Christ sur la mort et sur l'enfer. Elle nous rappelle que sa victoire est achevée pour nous et que nous avons tous les fruits de cette victoire. Nous devons combattre le péché, mais Christ l'a vaincu. Nous sommes tentés par Satan, mais Christ a défait Satan. Si Christ ne revient pas rapidement, nous serons obligés de quitter ce corps. Mais la mort est vaincue pour nous et nous n'avons aucune crainte à en avoir. Souvenons-nous que la victoire du Seigneur est la garantie de notre victoire. Si la tête a vaincu, les membres ne seront pas défaits. Ne laissons pas le souci obscurcir l'œil de notre foi. Ne laissons pas les craintes troubler notre esprit. Nous devons vaincre car Christ a vaincu. Saisissons par la foi un esprit de victoire et nous obtiendrons la victoire. Mettons cette pierre devant les yeux de notre foi ce jour et disons « Ici, mon maître a vaincu l'enfer et la mort, et en son nom et par sa force, je serai couronné moi aussi lorsque le dernier ennemi sera vaincu. » Un troisième usage de cette pierre est là comme une fondation posée. Cette pierre a roulé loin du sépulcre, typifiant et certifiant que la résurrection de Jésus-Christ est une pierre de fondation pour la foi chrétienne. Enlevez la résurrection du Seigneur, et notre très sainte foi devient un recueil de fables. Alors, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, ceux qui se sont endormis en Christ sont morts en vain. Toutes les grandes doctrines de notre religion divine tombent en ruine, comme une arche de pierre dont vous enlèveriez la clé de voûte. Mes frères et sœurs, que Jésus soit ressuscité des morts est un fait mieux établi que pratiquement tout autre dans l'histoire. Les témoins sont nombreux. C'étaient des hommes de toutes les classes et de toutes les conditions. Aucun d'entre eux n'a jamais pu être pris en faute sur ce point. Au contraire, ils étaient tellement persuadés de cette résurrection qu'ils ont été prêts à souffrir la mort pour en témoigner. Ils n'avaient rien à gagner par un tel témoignage. Ils n'ont pas grandi en puissance ni gagné des honneurs. C'étaient des hommes de foi, remplis de droiture, qui témoignaient simplement de ce qu'ils avaient vu et de celui auquel ils appartenaient. Et le livre des Actes des Apôtres nous le démontre tout au long. La résurrection de Jésus, voilà la confiance et la foi des saints. Nous nous reposons en lui, nous croyons en lui. S'il n'était pas ressuscité, nous serions les hommes les plus malheureux de la terre. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait aucune certitude que son sacrifice soit suffisant. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait aucune preuve que nos péchés peuvent être enlevés par son précieux sang. Il n'y aurait aucune assurance de réponse à nos prières ou de guérison divine. Mais il est ressuscité et nous nous appuyons sur cette foi. Placez-vous votre espérance éternelle sur la résurrection de Jésus. Croyez-vous en lui, qu'il est mort et ressuscité pour vous personnellement. Avez-vous construit votre vie sur la pierre vivante qui est en Jésus-Christ? Oh, reposez-vous sur lui, qui est la pierre d'angle, éprouvée, choisie, précieuse devant Dieu. C'est ainsi qu'on peut construire en sécurité, éternellement, et de façon à être pleinement béni par Dieu. Amen. Et voici qu'une quatrième voie sort de cette pierre. Là, on peut trouver du repos. C'est ce que l'ange nous enseigne en s'asseyant sur la pierre. Combien la résurrection s'est effectuée d'une manière simple, tranquille peut-être pas pour tous, mais en tout cas simple, quelle absence de pompe, de parade. L'ange est descendu, la pierre a été roulée, Christ est ressuscité, et ensuite l'ange s'est assis sur la pierre. Et il s'est assis là, tranquillement, comme défiant les Juifs et leurs sceaux, les légionnaires romains et leurs lances, et la mort, et la terre, et l'enfer. C'est comme s'il disait, venez, ennemi de ressuscité, essayez de rouler cette pierre à nouveau là où elle était auparavant. Vous, puissance infernale, qui pensiez prendre le pas sur le Tout-Puissant, essayez si vous l'osez. L'ange n'a pas dit cela, mais la façon dont il était assis sur cette pierre signifiait cela, et plus encore. Le travail du maître est fait pour toujours. Et cette pierre qui ne sera plus utilisée est le symbole que tout est accompli, et accompli pour l'éternité. En Louisiane, une femme est enterrée sous un bosquet de chênes de 150 ans dans le cimetière d'une église épiscopale. Un seul mot est gravé sur sa pierre tombale. J'attends. Un de mes amis connaît un pasteur qui a fait un sermon émouvant sur le Vendredi Saint. Et le titre c'était « C'est vendredi, mais le dimanche arrive ». Et dans un crescendo, son sermon met en contraste la façon dont le monde voyait le vendredi, ce jour où les forces du mal ont semblé triompher, et la façon dont il voyait le dimanche. Les disciples qui ont vécu ces deux journées n'ont plus jamais douté de Dieu après. Ils ont appris que quand Dieu semble le plus absent, il peut être le plus proche. Et le sermon, remarquez bien, saute une journée cependant, c'est le samedi. La journée sans nom. Ce que les disciples ont vécu sur une petite échelle, nous le vivons maintenant sur une échelle cosmique. C'est samedi sur la planète Terre. Dimanche arrivera-t-il jamais? S'il y a du bon dans ce sombre vendredi de Golgotha, c'est uniquement à cause de ce qui s'est produit le dimanche. Car Pâques a ouvert une brèche dans un univers voué à la destruction. En un jour, Dieu donnera des dimensions cosmiques au miracle de Pâques. Entre-temps, nous attendons, dans l'espérance, en vivant chaque jour comme si c'était samedi, c'est-à-dire la journée sans nom. C'est samedi, mais dimanche arrive. Et cet ange, qui se repose sur cette pierre, nous chuchote, « Viens et repose-toi aussi. » Il n'y a pas de repos meilleur et plus sûr pour l'âme que dans le fait que notre Sauveur ait ressuscité des morts. Amen. Et puis, cette pierre, en cinquième, est aussi une frontière établie. Il y avait deux côtés à cette pierre. D'un côté, les gardes terrorisés, couchés à terre comme des hommes morts. De l'autre, les femmes tremblantes, auxquelles l'ange parle doucement. « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus. » Voyez-vous, cette pierre est devenue la frontière entre les morts et les vivants, entre ceux qui haïssent Christ et ceux qui le cherchent, entre les ennemis et les amis de Christ. Pour ses ennemis, la résurrection est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, mais pour son peuple, la résurrection est véritablement la pierre maîtresse de l'angle. La résurrection de Christ est notre triomphe et notre joie. Sa résurrection agit comme la colonne de nuée que Dieu avait placée entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. C'était l'obscurité pour l'Égypte, mais elle donnait la lumière pour Israël. Ainsi, la doctrine de la résurrection est remplie d'horreur pour ceux qui ne connaissent pas Christ et ne croient pas en lui. Qu'ont-ils à gagner dans la résurrection? Quel jour terrible pour eux, quand tous les pécheurs ressusciteront et que le Seigneur apparaîtra dans la plénitude de sa gloire pour les juger et les condamner. Oui, il n'y a rien que de l'amertume pour ceux qui seront du mauvais côté de la pierre de la résurrection. Mais quelle grande joie la résurrection apporte à ceux qui sont du bon côté de cette pierre. Combien ils attendent ce jour merveilleux. Combien ils se réjouissent de ce moment où ils ressusciteront et où leurs yeux verront le Sauveur. En ce jour, de quel côté de cette pierre de frontière êtes-vous? Avez-vous la vie de Christ? Êtes-vous ressuscité avec Christ en nouveauté de vie? Vous confiez-vous uniquement en celui qui est ressuscité des morts? S'il en est ainsi, ne craignez pas. L'ange vous réconforte, et Jésus vous aime. Vous êtes les bénis de Dieu. Mais si vous n'avez pas la vie de Christ, venez à lui aujourd'hui pour enfin recevoir cette bénédiction. Enfin, cette pierre est aussi pour nous comme une ruine prophétique. Notre Seigneur est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Représentez-vous les œuvres du diable comme un château horrible, massif, terrible et sombre, recouvert par la mousse des siècles, colossal, cimenté avec le sang des hommes, fortifié par la méchanceté, la ruse, entouré de profonds fossés d'angoisse et de terreur, avec des garnisons de nombreux démons, un ensemble, une structure si terrible que quiconque y chercherait un point faible en serait désespéré. Autant marqué, notre champion est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Pendant sa vie, il a fait résonner la trompette contre ce grand château et a délogé les pierres ici et là, car les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient et la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres. Mais au matin de la résurrection, la grande forteresse a tremblé de la base au sommet. De grandes failles sont apparues dans les murs. Ces ouvrages fortifiés se sont lézardés. Un homme plus fort que le maître de la citadelle était entré et avait commencé à détruire et à détruire encore. Une grande pierre qui liait ensemble toute la construction a été précipitée à terre depuis la place qu'elle occupait. Jésus a arraché de sa place ce grand bloc de granit de la mort et l'a jeté au loin, donnant ainsi l'assurance que toutes les autres pierres suivraient. Et lorsque la pierre a été roulée loin du sépulcre, c'était comme une prophétie que toutes les pierres de construction du diable seraient roulées également et qu'aucune ne resterait l'une sur l'autre de toutes celles que les puissances des ténèbres avaient entassées depuis leur première apostasie jusqu'au temps de la fin. Frères et sœurs, cette pierre roulée loin du sépulcre me donne une grande, une glorieuse espérance. Le mal est toujours puissant, mais il tombera. La multitude court toujours après le péché. Les nations sont toujours assises dans d'épaisses ténèbres. Beaucoup adorent toujours la Babylone vêtue de pourpre. D'autres se prosternent devant la philosophie humaniste. Des millions se prosternent devant des blocs de bois, de pierre. Les cavernes et les antres de la terre sont toujours remplies de cruauté, de méchanceté. Mais Christ a donné un tel coup à toute cette construction de péché que toutes ces pierres en tomberont bientôt. Nous n'avons qu'à travailler, faire résonner la trompette de l'Évangile, continuer à rester chacun à la place que le Seigneur nous a assignée, et le jour de la victoire, le jour de Dieu, se hâtera de venir. Réjouissez-vous, fils et filles de Dieu, car bientôt vous n'aurez plus à tourmenter journellement votre âme à cause de ce que vous voyez et entendez. Réjouissez-vous, car la chute de Babylone approche. Je vous le dis en vérité, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tel était, mes amis, le sermon que la pierre nous a adressé. Écoutons maintenant ce que l'ange a à nous dire à son tour. La prédication de l'ange, donc. Il a prêché de deux façons. Il a prêché en symbole et en parole. Parlons tout d'abord de cette prédication en symbole. Ah, c'est une prédication très populaire dans certaines religions. Ils disent que l'évangile doit être compris par l'œil et par les couleurs, comme le violet, le rouge, le doré, sur l'officiant, sur l'autel et par des cierges et des gobelets d'argent. Ils disent même que l'évangile doit être senti par le nez, qu'il doit être attiré par les fumées de l'encens, entendu par les oreilles, qu'il doit entendre toutes sortes de bruits religieux. Et remarquez bien que l'ange était un prédicateur de symboles, avec son visage comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Mais regardez ceux pour lesquels ces symboles étaient réservés. Il n'a pas dit un seul mot aux soldats de garde, pas un mot. Il leur a donné l'évangile symbolique, c'est-à-dire qu'il les a regardés, et son regard était comme l'éclair. Il s'est révélé à eux dans ses vêtements blancs comme neige et pas plus. Regardez comme ils tremblent. C'est cela l'évangile des symboles. Partout où il arrive, il condamne, et il ne peut faire autrement. Regardez la vieille loi mosaïque des symboles, comment a-t-elle fini ? La masse du peuple d'Israël est tombée dans l'idolâtrie, et ce système de symboles est devenu leur mort. Le message de l'Évangile, c'est, en vérité et en réalité, écoutez, et votre âme vivra. Inclinez votre oreille et venez à moi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais si une génération perverse demande des symboles et des signes, Elle sera trompée par un évangile diabolique et deviendra la proie du destructeur, car c'est par la foi et non par la vue que s'opère l'œuvre du salut. Et puis parlons maintenant de cette prédication de l'ange en parole. Car ce n'est qu'en parole que le véritable évangile peut être annoncé. Christ est la parole, et l'évangile est un évangile de parole et de réflexion. Il n'appelle pas l'œil en premier, mais d'abord l'oreille, et la compréhension, et le cœur, et l'obéissance. C'est quelque chose de spirituel, qui ne peut être saisi que par ceux dont l'esprit a été éveillé à s'emparer des choses spirituelles. La première chose que l'ange a dite, c'est « ne craignez pas ». Et ceci, c'est la grande vérité de l'évangile de notre Seigneur ressuscité. « Ne craignez pas ». Pour vous qui voulez être sauvés, pour vous qui voulez suivre Christ, ne craignez rien. La terre a tremblé, ne craignez pas. Dieu peut vous préserver, même quand la terre sera brûlée par le feu. L'ange était-il dans la crainte quand il est descendu? Ne craignez pas, il n'y a pas de terreur dans le ciel pour l'enfant de Dieu qui vient à la croix de Christ et confie son âme à celui qui y est mort. Les femmes étaient-elles dans la crainte, dans l'obscurité? Ne craignez pas, Dieu vous aime, même dans l'obscurité. Il n'y a rien dans les ténèbres ou dans la lumière qui ne soit sous son contrôle. Avez-vous peur d'une tombe? Avez-vous peur de mourir? Ne craignez pas. Vous ne pouvez pas mourir. Depuis que Christ est ressuscité, même si vous mourrez, vous vivrez quand même. Vivre sans crainte. Dans Isaïe 41, verset 10, il est marqué « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. » De la Genèse à l'Apocalypse, nous rencontrons sans cesse ces mots « N'ayez pas peur ». Pourquoi ? Parce que Dieu comprend que la peur n'est pas seulement notre grand ennemi, mais également, hélas, notre fidèle compagnon. Il veut nous aider à la surmonter. Quelqu'un a écrit « Imaginez que votre zone de confort quotidien ne soit qu'une prison dans laquelle vous vivez jour après jour, une grande prison que vous avez bâtie en grande partie pour vous, par vous-même. Elle est faite de tous vos « je ne peux pas »,« je dois », »,« je ne dois pas » et autres croyances sans fondement issues de pensées et de décisions négatives que vous avez accumulées et intensifiées durant votre vie. Chacune de vos peurs ressemble à un barreau de prison. Mais c'est la bonne nouvelle. Comme la peur n'est qu'une succession de sentiments, une foi sincère peut anéantir ceux qui sont néfastes et dangereux et vous en délivrer à jamais. Cela veut-il dire que vous ne connaîtrez désormais aucune crainte d'aucune sorte? Certes non. L'écrivain Mikhaïl Ignatieff a dit « Vivre sans être dominé par la crainte » n'est pas la même chose que de ne jamais connaître la moindre peur. Il est bon d'avoir peur occasionnellement. La peur peut nous enseigner beaucoup. Par contre, ce qui n'est pas bon, c'est de vivre dominé par la peur, de la laisser vous dicter vos choix et de lui permettre de définir qui vous êtes. Vivre sans crainte signifie affronter chacune de nos peurs, évaluer ses effets et refuser de la laisser façonner et déterminer notre vie. Vivre sans crainte signifie prendre des risques, ne pas jouer la carte de la sécurité, refuser une réponse négative quand vous êtes sûr qu'elle aurait dû être positive, refuser d'accepter moins que ce qui nous revient de droit et que nous avons gagné à la sueur de notre front. Et nous pouvons ajouter ce que Dieu nous a promis et qu'il a planifié pour notre vie. Oh, le grand réconfort de l'Évangile! Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a rien dans la Bible qui puisse faire craindre un homme qui place sa confiance en Jésus. Rien dans la Bible, je dis. Il n'y a rien dans le ciel, rien sur la terre, rien en enfer, pour faire craindre celui qui croit en Jésus. Vous n'avez pas à craindre pour le passé, il vous est pardonné, ni le présent, puisque Christ en occupe. Quant à l'avenir, il offre pleine sécurité par la puissance de Christ. Alors notez les paroles suivantes de l'ange. « Ne craignez pas, car je sais. » Je sais. Comment ? Un ange connaît le cœur de ses femmes. Ses esprits peuvent-ils lire dans notre esprit ? C'est une grande discussion, trop grande à entreprendre maintenant, mais il est tellement meilleur encore de se souvenir que notre Père sait. Ne craignez pas, car Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur et ce que vous n'avez jamais osé avouer, ces choses secrètes que vous n'avez pas osé dire. De peur d'être incompris. Ses désirs, ses aspirations secrètes, Dieu les connaît. Il connaît les soupirs, même les plus cachés, même les plus inconscients de votre cœur. Ne craignez pas, car votre Père Céleste sait. Restez en paix, car votre grand médecin sait où est la blessure et comment il va la soigner de la meilleure façon. Et ses soins ne sont-ils pas aussi parfaits et pleins d'amour que sa connaissance ? Et l'ange continue, « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Elle cherchait Jésus, bien que le monde l'ait crucifié. Quoique beaucoup l'aient abandonné et se soient détournés de lui, elle s'attachait à lui avec amour. Et aujourd'hui, si parmi nous il y a quelqu'un qui se dit « Bien que je sois indigne d'être un disciple de Christ, bien qu'il ait bien des raisons de me rejeter, bien que mes péchés me laissent dans la crainte, je veux me tenir de son côté, même si tous sont contre lui, même si le monde le rejette, qu'il puisse m'accueillir et je demeurerai toujours avec lui. Oh, s'il y a une personne seulement parmi mes auditeurs qui est un tel état d'esprit, cette parole est pour lui, pour elle aujourd'hui dans notre texte. Ne craignez pas, ne crains pas. » Ensuite, l'ange ajoute, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Et là, c'est une instruction que l'ange donne. Après avoir donné ce réconfort, il donne cette instruction. Notre grande consolation, c'est que nous ne cherchons pas un Christ mort. Nous ne prions pas un sauveur enterré. Il est vraiment vivant. Aujourd'hui, il est aussi capable de nous relever qu'il l'était il y a 2000 ans pour aider le pauvre aveugle. Il désire autant vous accepter, vous bénir, qu'il a béni le lépreux ou guéri le paralytique. Allez donc à lui avec confiance, car il est vivant, ressuscité et régnant dans l'éternité pour répondre à votre requête. Amen. Mais Seigneur, nous te remercions encore pour ces moments que tu nous accordes, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour cette merveilleuse assurance de ta résurrection. Nous te remercions parce que tous ceux qui saisissent cela saisissent en même temps la vie éternelle pour leur âme et pour tout leur être. Et merci Seigneur parce que tu vois et tu connais les cœurs de ceux qui ont entendu et reçu cette parole. Et c'est toi qui les bénis tout particulièrement Seigneur par ta puissance, par ton esprit Jésus. Toi qui te glorifies dans leur vie Seigneur, toi qui leur donnes cette paix, cette joie qui viennent de toi, cette assurance précieuse du salut de leur âme et de leur vie pour l'éternité avec toi. Merci mon Sauveur. Béni sois-tu pour toute bonne œuvre que tu fais dans ce sens encore. Amen. Amen. Et voilà, chers amis, simplement en conclusion maintenant, je vous rappelle que nous avons l'évangélisation dans les villages qui est prévue demain. Donc rendez-vous ici à 14h30 pour ceux qui veulent y participer. Avec pour l'objectif de distribuer des invitations dans les boîtes aux lettres pour l'instant toujours. Pour le culte ce dimanche, nous avons toujours nos deux rendez-vous, un à 8h30, l'autre à 10h45. Et si vous voulez y participer, eh bien inscrivez-vous sans tarder sur le site de l'église ou par téléphone. Sinon, la réunion de prière du mercredi se tient toujours à 16h, il n'y a pas besoin de s'inscrire là. En tout cas, que le Seigneur bénisse chacune et chacun d'entre nous par sa puissance de résurrection, capable de faire toutes choses nouvelles et de nous secourir dans tous nos besoins. Amen.